Alors, si vous cherchez un lien entre le titre et l'image, vous allez comprendre dans quelques instants. Alors, juste par curiosité, est-ce que ceux qui sont par Zoom nous entendent, Sylvain ? Tu sais ? Alors, je ne sais pas, le titre, « À la recherche d'une épouse ». C'est bon, Zoom, ceux qui sont par Zoom nous entendent. Super. Alors, depuis plusieurs mois, nous suivons l'histoire d'Abraham, l'ancêtre du peuple juif, et je vous propose aujourd'hui de poursuivre ce matin avec le récit où Abraham se préoccupe du mariage de son fils, Isaac. Alors, non seulement il s'en préoccupe, mais il prend aussi les choses en main. Alors, je vais lire le texte, et pendant la lecture, je vous demanderai d'être très attentif au personnage et de vous poser la question suivante. Qui est le héros de l'histoire ? Qui est le héros de l'histoire ? Et pourquoi ? Ah oui, c'est vrai, alors, c'est vrai que les enfants peuvent participer, mais en fait, il y a Aude qui a prévu quelque chose pour vous. Désolé, j'aurais dû vous le dire avant. Donc, si vous voulez aller à la salle de la garderie, ça ne sera pas qu'une garderie, elle a prévu, je crois, une histoire, enfin voilà, elle a prévu quelque chose pour les enfants, donc vous pouvez y aller. Florence, tu les accompagnes ou tu... Merci beaucoup. Oui, passez par là, hein. Ça fera gagner du temps. Et en plus, on respecte le sens. Voilà, alors je disais, je vais lire le texte et je vous demande de réfléchir à cette question. Qui est le héros de l'histoire et pourquoi ? Et après la lecture, vous allez me dire votre avis. Alors, en fait... Il y en a peut-être qui se disent, ouais, en fait, le héros, c'est Dieu. Et c'est vrai, dans toute la Bible, le héros principal, c'est Dieu. Mais après Dieu, voilà, c'est la question, c'est après Dieu dans l'histoire, après Jésus. Il n'y a pas Jésus. Après Dieu, qui est le héros du récit ? Et voilà, donc lisons le texte. Alors, il fait 67 versets, mais il est facile à suivre. Abraham était vieux, d'un âge avancé. L'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Abraham dit à son plus ancien serviteur, qui était l'intendant de tous ses biens, « Mets ta main sous ma cuisse, et je vais te faire jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac, dans mon pays et dans ma patrie. » Le Seigneur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci ? Devrais-je conduire ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi bien d'y conduire mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, Je donnerai ce pays à ta descendance, enverra lui-même son ange avec toi. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y conduiras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse de son seigneur Abraham et lui jura de se conformer à ses paroles. Le serviteur prit 10 chameaux parmi ceux de son seigneur et il partit avec tous les biens de son seigneur à sa disposition. Il se leva et se rendit en Mésopotamie, dans la ville de Nahor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux près d'un puits à l'extérieur de la ville. C'était le soir, le moment où les femmes qui vont puiser de l'eau sortent. Il dit, « Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici que je me tiens près de la source d'eau, et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche pour que je boive » et qui répondra « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux » soit celle que tu as destinée à mon serviteur Isaac. Par là, je reconnaîtrai que tu fais preuve de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca sortit sa cruche sur l'épaule. Elle était la fille de Bethuel, fils de Milca, femme de Nahor, le frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle. Elle était vierge, aucun homme n'avait eu de relation avec elle. Elle sortit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit « Laisse-moi boire un peu d'eau dans ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur » et s'empressa de descendre sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau en or qui pesait 6 grammes, ainsi que 2 bracelets en or qui pesaient 120 grammes pour ses poignets. Puis il dit « De qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il chez ton père de la place pour passer la nuit ?» Elle répondit « Je suis la fille de Bethuel, le fils de Milca et de Nahor. » Elle lui dit encore « Il y a de la paille et du fourrage en abondance chez nous, et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel en disant « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa bonté et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit chez la famille de mon Seigneur. » La jeune fille courut raconter cela chez sa mère. Rebecca avait un frère du nom de Laban. Laban courut dehors vers l'homme, près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets au poignet de sa sœur, et il avait entendu sa sœur Rebecca dire « Voici comment m'a parlé cet homme. » Il vint donc vers cet homme, toujours près des chameaux, vers la source. Il lui dit « Viens, toi qui es béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux. Il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, ainsi que de l'eau pour laver les pieds de l'homme et ses compagnons. Puis il lui servit à manger. Mais l'homme dit « Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » « Parle, » dit Laban. Alors il dit « Je suis un serviteur d'Abraham. » L'Éternel a comblé mon Seigneur de bénédictions, si bien qu'il est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'or, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a donné dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a fait don de tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait prêter serment en disant « Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dont j'habite le pays. Mais tu iras prendre une femme pour mon fils dans la famille de mon père et dans mon clan. » J'ai dit à mon Seigneur, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre ?» Il m'a répondu, « L'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Tu prendras pour mon fils une femme du clan de la famille de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu seras allé trouver mon clan. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. » Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu veux bien faire réussir le voyage que j'accomplis, voici que je me tiens près de la source d'eau. Que la jeune fille qui sortira pour puiser de l'eau, à qui je dirai « Laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche » et qui me répondra « Bois, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. » Avant que j'aie fini de parler en moi-même, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé de l'eau. Je lui ai dit, « Donne-moi à boire. » Elle s'est empressée de descendre sa cruche de son épaule et a dit, « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. » J'ai bu et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée en disant, « De qui es-tu la fille ?» Elle a répondu, « Je suis la fille de Bethuel, fils de Nahor et de Milka. » J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses poignets. Puis je me suis incliné et j'ai adoré l'Éternel, j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prenne la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous avez fait preuve de bonté et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, dites-le-moi et je m'en irai d'un côté ou de l'autre. » Ah, j'ai loupé un passage. Je me rattrape, verset 50. Laban et Bethuel répondirent, « C'est de l'Éternel que cela vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant moi. Emmène-la en repartant. Qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. » Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, ils se prosternèrent jusqu'à terre devant l'Éternel. Le Seigneur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de généreux cadeaux à son frère et à sa mère. Puis ils mangèrent et burent, lui et ses compagnons, et ils passèrent la nuit là. Le matin, quand ils furent levés, le Seigneur dit, « Laissez-moi repartir chez mon Seigneur. » Le frère et la mère de Rebecca dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu pourras partir. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille chez mon Seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu partir chez cet homme ?» Elle répondit, « Oui. » Alors ils laissèrent leur sœur Rebecca et sa nourrice partir avec le serviteur d'Abraham et ses hommes. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Toi qui es notre sœur, deviens l'ancêtre de millions de personnes et que ta descendance possède les villes de ses ennemis. » Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. C'est ainsi que le serviteur emmena Rebecca et repartit. Quant à Isaac, il était revenu du puits de l'Achoïroï et habitait dans la région du Négev. Un soir qu'il était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Voici que des chameaux arrivaient. Rebecca leva les yeux aussi, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle demanda au serviteur, « Qui est l'homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors, elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il épousa Rebecca. Elle devint sa femme et il l'aima. Ainsi, Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Voilà donc un récit bien long, mais je me voyais mal le couper. Donc nous l'avons lu en entier. Qui est le héros de ce récit? Prenons peut-être une minute pour recueillir votre avis. Qui est le héros de ce récit? À votre avis? Le serviteur? D'autres avis? Les chameaux, ah, peut-être que c'est les chameaux. Oui, oui, oui. Entre le serviteur et les chameaux. Laban, c'est ça que j'ai entendu? C'est possible. En fait, il y a beaucoup de personnages qui sont liés vraiment les uns aux autres. Alors, dans la plupart des Bibles, on voit un titre avant les paragraphes. Et assez souvent, le titre qui est donné à ce chapitre, c'est « Le mariage d'Isaac et Rebecca ». Dans ma Bible, c'est ainsi que c'est présenté, « Mariage d'Isaac et Rebecca ». Cependant, est-ce que l'auteur insiste sur le mariage? Vous ne l'avez même pas mentionné, c'est vrai que les personnages centraux sont-ils vraiment Rebecca et Isaac? En observant le texte, j'ai noté tous les personnages qui apparaissent et j'ai compté le nombre de fois qu'ils sont mentionnés et le nombre de fois qu'ils prennent la parole. Donc voici les résultats de cette observation. Je commence, un peu comme quand on fait les résultats d'un concours, je commence par ceux qui sont le moins mentionnés. Donc les moins mentionnés, on peut parler de Sarah, la femme d'Abraham qui est décédée et qui est mentionnée deux fois, tout comme les servantes de Rebecca. Ensuite, nous avons Nahor, ou Nahor, moi je dis Nahor, le frère d'Abraham, qui est mentionné quatre fois. Ensuite, Bethuel et Laban, qui sont mentionnés chacun cinq fois. Vient ensuite Isaac, qui est mentionné seulement sept fois. Maintenant, voici le top 3. Abraham, en troisième position, qui est mentionné 14 fois. Rebecca, en deuxième position, mentionnée 16 fois. Et en première position, nous avons le serviteur d'Abraham, qui est mentionné 17 fois. Et je le précise pour Gilles, les chameaux sont mentionnés le même nombre de fois que le serviteur. Donc finalement, le serviteur et les chameaux sont à égalité. Et enfin, nous pouvons quand même dire que l'Éternel est mentionné 19 fois. Donc finalement, en fait, c'est quand même Dieu qui dirige tous les événements. Alors parmi toutes ces remarques, nous pouvons noter qu'Isaac est l'un des seuls personnages qui ne prend pas la parole tout au long du récit. Même Rebecca dit oui, alors que Isaac, on voit qu'il la prend pour femme, mais il ne prend pas la parole, il n'ouvre pas la bouche. Nous pouvons aussi remarquer que le serviteur, qui est celui qui parle le plus après Dieu, c'est celui qui est le plus mentionné. Et en fait, on ne connaît pas son nom. Voilà, le personnage central, nous ne connaissons pas son nom. Effectivement, je pense que c'est lui, le serviteur, qui est le personnage principal. En tout cas, c'est autour de lui que tournent tous les autres personnages. Et c'est autour de lui, la mission lui est confiée à lui. C'est le seul qui parle avec tous les autres protagonistes. Il fait le lien entre tous les personnages. Donc pour tirer l'enseignement principal de ce récit, je pense qu'il faut s'intéresser en particulier aux serviteurs. Je reconnais que beaucoup de détails nous paraissent bizarres. Nous n'aurons pas le temps de tout aborder en détail. Le texte était déjà bien long. Je vais vraiment me concentrer sur quelques enseignements qui me paraissent principaux. Mais c'est vrai que certaines choses nous paraissent étranges, surtout parce que nous nous trouvons dans une autre époque et dans une autre culture, une culture totalement différente de la nôtre. Par exemple, alors c'est juste un exemple parmi d'autres, mais quand le serviteur met sa main sous la cuisse d'Abraham, c'était un geste qui, à l'époque, accompagnait un serment. Là, ça peut nous paraître quand même étrange, c'est vrai, à notre époque. Alors avant de parler du serviteur, j'aimerais d'abord commencer par Abraham, parce que c'est lui qui, on va dire, qui est à l'origine quand même des événements, c'est lui qui pose les conditions, tout trouve son origine dans les souhaits qu'exprime Abraham pour sa descendance. Abraham envoie son serviteur chercher une femme pour Isaac et il émet trois souhaits. Premier souhait, il ne veut pas que son fils épouse une Cananéenne. Deuxième souhait, il veut que son fils épouse une femme de sa patrie. Et troisième souhait, il ne veut pas que son fils se rende dans son pays d'origine. Pourquoi ces exigences? Abraham souhaite que son fils soit entièrement consacré à la mission que Dieu lui a confiée à lui et à sa descendance. Dieu a promis de leur donner un pays, le pays de Canaan, un pays occupé par un peuple de plus en plus méchant. Nous l'apprenons, entre autres, au chapitre 15 de la Genèse. Dieu lui a promis ce pays et il n'est pas question de revenir en arrière. Et comme la relation avec Dieu est la chose la plus importante pour Abraham, il ne veut pas que Isaac puisse être tenté d'adorer les dieux étrangers, un autre dieu que l'Éternel. Si Isaac épousait une Cananéenne, il pourrait se détourner de Dieu pour adorer les dieux étrangers. Déjà que l'homme a tendance, naturellement, à se détourner de Dieu, il ne faudrait pas des tentations supplémentaires. À notre époque, nos contemporains pourraient trouver cette attitude sectaire. Mais imaginez l'histoire suivante. Un homme et une femme se rencontrent lors d'une soirée entre amis et ils ont le coup de foudre. Ils décident de se revoir en tête à tête et là, le jeune homme découvre que la fille est végane. C'est-à-dire qu'elle ne mange ni animaux, ni produits issus des animaux comme le lait ou le miel. Elle ne porte pas de laine ou de cuir. Elle ne consomme aucun médicament qui a fait l'objet de tests sur des animaux. Par exemple, comme le doliprane. Et la fille, de ce côté, découvre que le garçon est le président de l'amicale des chasseurs et qu'il organise des grillades avec ses amis tous les samedis soirs. Pensez-vous que s'ils se marient, ils pourraient vivre ensemble sereinement, sans qu'il y ait besoin de faire de compromis? Abraham voulait que son fils ait toutes les chances de son côté pour être entièrement consacré à Dieu. S'il se mariait avec une femme qui adore d'autres dieux, il y avait un fort risque qu'Isaac fasse des compromis dans sa foi. Et nous savons que la foi a des répercussions sur notre manière de vivre, et encore plus à l'époque d'Abraham. Être attaché à un Dieu n'était pas juste une question d'opinion, c'était aussi lié à l'identité ethnique. Il y avait des commandements, des restrictions rituelles, des sacrifices, des lois alimentaires, des pratiques spirituelles, etc. À la fin de sa vie, Abraham était particulièrement dévoué à Dieu et il savait que Dieu avait une mission précise pour lui et pour sa descendance. Il désirait honorer Dieu au maximum et il voulait que son épouse, que son fils épouse une femme qui respecte le même Dieu. Malheureusement, la suite de l'histoire nous montrera que le couple Isaac et Rebecca était loin d'être parfait. La foi, le fait d'avoir la même foi, ne fait pas tout. Le problème se trouve dans le cœur humain où l'on trouve orgueil, jalousie et ruse. Voilà donc les souhaits d'Abraham, c'est de là que tout est parti. Maintenant, voyons le serviteur. Ah mince alors, problème de connexion. Alors peut-être que Zoom s'est déconnecté. Je me suis demandé juste tout à l'heure, est-ce que l'ordinateur de Aïna peut se connecter sur Zoom et peut-être que le son sera capté par le micro. Puis, avec le serviteur. Comme je l'ai dit, c'est le seul personnage dont le nom n'est pas mentionné. Et c'est paradoxal parce que c'est le personnage, on l'a vu, qui est le plus mentionné, qui parle le plus, c'est le personnage principal. En fait, son anonymat montre déjà que c'est un personnage présenté sous le signe de l'humilité. C'est un héros qui n'est pas mis en avant et qui ne se met pas en avant. C'est quand même le serviteur le plus ancien d'Abraham, le gérant de toutes ses richesses. C'est peut-être même Éliézer de Damas, le serviteur mentionné en Genèse 15, celui à qui Abraham voulait léguer tout son héritage s'il n'avait pas d'enfant. Le gérant d'un homme riche avait beaucoup de pouvoir. Pourtant, dans notre récit, il fait preuve d'énormément d'humilité. Au verset 12, il supplie l'Éternel, non pas pour ses propres intérêts, mais pour les intérêts de son maître. Et quand Dieu fait réussir sa mission, il s'incline et il bénit Dieu, au verset 26. En résumé, ce représentant d'Abraham, qui a reçu toute confiance, tout pouvoir et toute autorité de la part de son maître, décide de se mettre au second plan. Il se présente comme un simple serviteur. Il fait preuve de sagesse, il prie l'Éternel et le bénit, il obéit fidèlement et humblement. Nous vivons à une époque où nous aimons être, au contraire, mis en avant, où nous aimons être complimentés, valorisés. Lorsque les gens postent une photo, une vidéo ou un commentaire sur les réseaux sociaux, ils regardent ensuite s'ils ont des likes et combien ils en ont. Ils vérifient s'il y a des gens qui aiment leur publication, s'ils ont des commentaires qui disent « Je suis d'accord avec toi, j'approuve ce que tu dis ». Dans notre société, on n'encourage pas toujours l'état d'esprit du serviteur, celui qui rend service fidèlement, en toute discrétion, celui qui ne se met pas en avant, celui qui ne cherche pas de récompense de la part des hommes, celui qui travaille trois fois plus que les autres et que personne ne remarque, celui dont on ne connaît même pas le nom. Voici l'une des paroles de Jésus dans les évangiles. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. L'attitude du serviteur d'Abraham est un exemple, il me semble, pour nous. Et il nous rappelle l'humilité du Christ, l'envoyé de Dieu. Celui-ci possède toute autorité, toute royauté, et pourtant, il est venu à nous, non pour être servi, mais pour servir l'humanité. Le verset suivant de Marc 10. En effet, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Pour conclure, terminons quand même par le personnage le plus important du récit. C'est Dieu qui fait réussir la mission du serviteur. C'est lui qui prend soin d'Abraham, de son fils et de tous ses descendants. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes aussi les descendants d'Abraham, non pas les descendants biologiques forcément, mais les descendants spirituels. Car celui qui entre dans l'Alliance fait partie du peuple de Dieu. Attendons-nous aussi donc à son action dans notre vie. Mettons de côté nos intérêts personnels, comme le serviteur. Prions pour les intérêts de Dieu et que son plan, que soit son plan qui s'accomplisse pour nous. Et la Bible nous garantit que cette prière-là sera exaucée. Et alors que nous faisons passer les intérêts de notre Maître en premier, il réalise son beau projet pour notre vie, projet de paix et non de malheur. Amen. Je vous propose de prier. Notre Père, merci parce que tu n'es pas ce Dieu qui nous encourage à chercher la gloire personnelle, à nous mettre en quête de pouvoir, d'autorité, de richesse, de la beauté aux yeux du monde. Tu ne nous encourages pas à entrer dans cette course, mais tu nous montres l'exemple par ton Fils Jésus, qui s'est humilié, qui a mis sa royauté, ses intérêts personnels de côté pour descendre jusqu'à nous. Merci parce que tu nous encourages à la fidélité, à la confiance, au service, à l'humilité. Et nous voulons effectivement entrer dans ce plan que tu as pour nous. Change notre cœur encore et encore, pour que nous puissions ressembler au serviteur, te ressembler. Merci parce que tu nous fais grâce et notre salut ne dépend pas de nos mérites. Mais puisque tu nous fais grâce, tu nous appelles à vivre dans la liberté, que nous puissions savoir être les derniers. Parce que c'est ton regard qui compte le plus. et que ton Église puisse rayonner, non pas par sa gloire, mais par son humilité, par son amour, par son esprit de service. Je te prie pour chacun d'entre nous, pour que tu puisses nous conduire dans ton plan. Au nom de Jésus. Amen.